Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Coucou tout le monde, bonsoir internet, j'espère que vous allez bien, merci de nous retrouver pour ce 15e épisode de C'est ça qu'on aime, ça me fait très plaisir que vous soyez encore là après 15 épisodes, écoutez 15 semaines de podcast, ça commence à faire déjà. J'espère que vous kiffez autant, toujours autant les découvertes que vous y faites et que ça vous passionne tant que moi, parce que si moi je pourrais faire un C'est ça qu'on aime sur C'est ça qu'on aime, ça serait un peu un vortex, mais... ça serait pas mal. Ce soir, je suis non pas avec une lectrice, mais avec deux lectrices de Mademoiselle. Hello Caroline et Elena, comment ça va ?
Ça va, ça va,
ça va.
Un peu stressée, les filles sont un peu stressées.
Un tout petit peu.
Mais ça va bien se passer. En fait, vous allez vite oublier qu'il y a des micros et que, en fait, juste on va discuter entre nous et ça va très bien se passer. Et les gens sont très bienveillants. Dites coucou et dites que ça va bien se passer aux filles et que je suis pas une mangeuse d'hommes bizarre. Voilà. On est quand même sur internet, donc je reprécise qu'on est en direct en vidéo sur YouTube et Facebook et que vous pouvez laisser des commentaires et réagir sur le chat en direct pour poser vos questions sur les sujets que les filles vont présenter ce soir. Et puis vous pouvez aussi réagir avec le hashtag MadenLive sur Twitter. Voilà. On est aussi en live sur Radio Mad, j'ai oublié de le dire. Radio Mad, c'est la web radio de Mademoiselle que j'ai créée, donc je fais un peu mon auto-promo. N'hésitez pas du coup à poser vos questions aux filles. Et avant de commencer, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter, genre quel âge as-tu, que fais-tu dans la vie, et un indice sur de quoi tu vas parler, Caroline.
Alors, donc je m'appelle Caroline, comme tu viens de le dire. J'ai 24 ans et je suis graphiste illustratrice. Surtout graphiste, mais un peu illustratrice. Bref, ce soir, je vais vous parler de podcasts et de jolies personnes.
Mm-hmm. Et toi, Elena ?
Du coup, je m'appelle Elena, j'ai 25 ans et je...
Alors, parle bien près de ton micro. Ah.
Réflexe.
N'hésite pas à le rapprocher de toi si tu veux.
Viens, mon ami de micro. du coup, je m'appelle Elena, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'école de Condé en illustration. Oui, on en a fait une petite équipe. Et je vais parler de culture étrangère.
Mm-hmm. Alors, que va choisir le chat ? Je ne sais pas, puisqu'ils ont un peu de décalage. Alors du coup, je viens de leur poser la question. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Alors, tout le monde dit, vous avez raison. Vous n'avez pas raison de stresser, ça va bien se passer. Je ne suis pas une mangeuse d'hommes bizarres, voilà. Merci Océane, ça me fait très plaisir que tu penses ça aussi.
Je m'en ai rassurée.
Alors le chat, dites-moi. Que voulez-vous en premier ? Sur C'est ça qu'on aime, pardon. Faut que j'arrête. Alors oui, quand je comble les blancs, je chante. Voilà, c'est comme ça. C'est... Alors si personne me répond, je vais vous dire tout de suite que c'est moi qui vais choisir. Alors que dit internet, suspense.
Pour Caroline, tapez 1.
Pour Elena, tapez 2.
Ah bah dis donc. Ils ont vraiment beaucoup de retard en fait, c'est pas possible. Bon ok, alors je vais choisir Caroline.
Ok.
Est-ce que t'es prête ?
Ouais, vas-y, grave.
Ok. Alors, ce soir, tu viens nous parler d'un podcast d'interview. Alors bon, globalement, il y en a à peu près 8500, je pense. Mm-hmm. On a déjà parlé, par exemple, de La Poudre avec OGG. Mm-hmm. Toi, c'est un sujet très précis.
Ouais. Moi, ce podcast donc s'appelle Art Oriented.
Oui.
Et c'est effectivement un sujet précis, car c'est des interviews avec des artistes. Et plus particulièrement des jeunes artistes, en fait. Donc, ceux qui commencent un petit peu à monter, parfois un peu moins, mais voilà. Et donc, c'est fait par un photographe qui est français, mais basé à Londres, et qui s'appelle Nabil Nadifi.
Okay.
Et en fait, c'est ça. C'est des conversations avec des jeunes artistes, soit qu'ils connaissent un peu, parce que c'est des amis ou des amis d'amis, soit pas du tout. Et en fait, il fait passer à son micro des artistes donc qui commencent un peu à monter, qui sont donc tous assez jeunes, qui sont vraiment aussi de cette génération. Ils ont quasiment tous un compte Instagram, par exemple.
Ouais.
Et il y a vraiment de tout. Il y a des illustrateurs, des photographes, des artistes plasticiens, des animateurs, des dessinateurs,
J'ai vu qu'il y avait aussi une galériste.
Exactement, une galeriste même.
Galeriste, pardon.
Et oui, et c'était d'ailleurs très très intéressant. Et voilà, c'est vraiment tous ces métiers de l'art et de personnes qui sont du coup assez jeunes, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Et c'est présenté vraiment sous forme de conversation. C'est-à-dire que ça commence pas... Il a pas forcément de questions dans un ordre précis. Ouais. C'est très... tu as vraiment l'impression, en fait, que tu es assis à un café et qu'à côté, tu as deux mecs qui discutent, qui se racontent leur vie. Et toi, tu es là et tu écoutes leur conversation. Tu n'es pas vraiment dedans, mais en même temps, un petit peu, parce que finalement, Nabil, il se met dans la position... de celle que tu pourrais prendre. C'est-à-dire, il va poser des questions... Et parfois, ils vont rigoler tous les deux, genre ils vont avoir un peu une sorte de connivence, en mode « Ah ouais, moi aussi, ça me l'a déjà fait un jour. »
Est-ce que toi voilà. aussi, des fois, tu t'écoutes les trucs ? Parce que comme vous êtes toutes les deux illustratrices, est-ce que genre toi, ça t'arrive d'écouter un truc et de te dire « Ah bah oui, ah, t'inquiète, moi aussi, ça me l'a fait, genre un client un peu relou, ou genre un truc, un dessin que t'as trop aimé, et genre, je sais pas, t'as renversé de l'eau dessus, ou une connerie comme ça, genre un café ?»
Alors, j'ai pas trop entendu parler d'accidents de ce genre-là, ouais. de type café, même s'il doit y en avoir.
C'est moi, pas les trucs les plus frustrants, peut-être.
Alors, je ne sais pas. Je sais pas pour toi, Elena, mais moi qui bosse beaucoup sur ordinateur, c'est plus des accidents de type Photoshop a décidé de quitter inopinément. Donc, bah, tu sais quoi, moi aussi, je vais quitter inopinément, si c'est comme ça. Mais,
ou le truc qui veut pas s'enregistrer. Ou
exactement.
Tu fais un contrôle S... au lieu d'un contrôle Z, et du coup, tu fermes ton Photoshop sans avoir enregistré.
C'est ça. Pire ou chose. Alors, parfois, tu sais, genre, tu veux enregistrer et tu vois que ça tourne, et tu dis, oui. Non, mais en fait, je crois que ça a planté. Et c'est donc, tu as deux choix. Soit tu dis, vas-y, je brûle un cierge et j'attends que le truc redémarre. Soit, ben, tu débranches tout et du coup, ben...
Tu sais que tu as perdu ton truc.
C'est ça.
Pile en face.
Mais oui, donc pour revenir à ça, effectivement, parfois, ça me fait penser à des situations à moi. Par exemple, ils parlent beaucoup des études d'art qu'ils ont fait. Ouais. Alors, ils sont pas tous passés par des écoles d'art, etc., mais il y en a quand même pas mal.
Mais ils sont tous français, c'est ça, hein ?
Ils sont tous français. Et alors, il y en a beaucoup qui sont basés à Londres aussi. Justement, c'est ça qui est intéressant et qu'on remarque quand on écoute les épisodes au fur et à mesure, c'est qu'en fait, souvent, il y en a beaucoup qui sont français et qui ont finalement un plus grand succès en Angleterre que à Paris. Enfin, à Paris, ah ouais, ou en France. Ouais.
Et ils ont genre des explications ou...
Alors, je pense que la scène anglaise, entre guillemets, est peut-être plus prête à ce genre de d'art, de dessin, etc. Je pense que laisse peut-être plus leur chance aux jeunes. Alors que, bon, après, je m'avance un petit peu. Hein. Peut-être que c'est un peu plus bouché en France, je sais pas exactement. Et puis, ils ont pas mal de choses, comme le magazine Nobro, par exemple. Tu connais ou pas ?
Ouais.
Et du coup, effectivement, c'est un magazine où dedans, il y a beaucoup de jeunes artistes qui passent et qui c'est des... C'est un peu, comment dire, c'est un peu alternatif, entre guillemets, c'est un peu une référence dans l'illustration en 2017, quoi. Et du coup, je pense qu'ils ont beaucoup ce genre d'initiatives, genre de petites galeries, etc. Donc c'est peut-être ça, mais enfin après, je ne saurais pas dire plus. Hein.
Et du coup, c'est quoi le nom du magazine que tu citais, que je le mette en...
Alors, c'est Nobro, et si je ne me trompe pas, ça s'écrit N-O-B-R-O-W.
Ok.
Non ?
Je crois,
Nobropress.net. Tout notre genre, nobro.net.
Ouais, très bien. C'est possible.
Je vais mettre ça donc sur le chat YouTube, mais aussi en lien pour nos amis qui nous écoutent en podcast ou en replay pour le site internet de Mademoiselle, afin que tout soit répertorié. Et du coup, comment tu as découvert ce podcast, toi ?
Alors, donc, comme je disais, je suis graphiste. Et du coup, j'ai aussi des copines graphistes et illustratrices. Et on a une petite conversation Facebook où on s'envoie des liens, des trucs genre « Ah, t'as vu ça ? Oh, je suis coincée là-dessus. Oh, mon client me saoule, etc. Et » Et du coup, j'ai une copine qui m'a montré ce podcast parce qu'elle sait que je suis un peu une folle dingue de podcast. Très honnêtement, oui. Depuis un an et demi, je ne fais plus que ça.
Alors, on peut expliquer. Caroline m'a envoyé un mail en me disant « vous pouvez participer à C'est ça qu'on aime ». On m'a envoyé un mail à Louise at Mademoiselle et vous mettez « C'est ça qu'on aime » et après, le sujet dont vous voulez parler. Et elle m'a dit « Podcast ». Et dans son mail, elle m'en cite, je pense, 8 ou 9.
Facile.
Facile.
Et franchement, en plus, le pire, c'est que je me suis restreinte.
Et donc, du coup, je dis, alors, très intéressant, il y a plein de points, il y a plein de trucs très cool, Mais on va en choisir un seul. Et on va parler d'un seul parce qu'on pourrait parler vraiment pendant 8h30 de tous les podcasts. La suite, je pense que si je mets autour d'une table Clémence Bodoc, Caroline, Fabrice Florent et moi-même, vous en avez pour 8 heures de live.
On ne part jamais.
On ne part jamais. Plus jamais. On fait un live infini. Donc du coup, oui, tu disais que tu avais ta conversation avec tes potes.
Exactement, mes potes graphistes, et que donc j'ai une copine, salut Alice, qui nous a envoyé ce podcast en disant ouais, regardez, c'est cool et tout, c'est justement sur l'art, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et en fait, ce qui est bien avec ce podcast, c'est que je pense qu'il peut inspirer finalement à la fois les artistes, les graphistes, etc., mais pas que. Mais en l'occurrence, c'est vrai que dans mon cas, ça résonnait particulièrement, et je pense que c'est pour ça que j'ai accroché. Oui. Et d'ailleurs, j'ai pu en parler un petit peu avec Nabil, qui fait ses podcasts, et justement, lui disait qu'il les avait créés dans le but de trouver un peu d'inspiration, parce qu'il voyait tous ces illustrateurs, tous ces artistes qui sont assez jeunes, qui sont là avec leur compte Instagram et tout ça, et qui font des trucs trop cool. Ouais. Et il disait, vas-y, comment ils font et tout, genre, moi aussi, je cherche un peu d'inspiration, etc. Et donc, en fait, il l'a fait dans une quête un peu pour justement trouver l'inspiration, etc. Et du coup, c'est exactement ce que ça fait également pour les auditeurs. Moi, c'est pareil, du coup, genre, quand je l'écoute, ça m'inspire et ça me redonne de la motivation, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai tout de suite accroché. Et voilà, ça répondait pas exactement à la question, je me suis un peu emballée.
C'est ça, c'était comment t'as découvert, et j'allais justement enchaîner avec pourquoi ça t'intéresse, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions que tu te posais auxquelles certains illustrateurs ont répondu? Parce qu'en fait, le podcast, on est d'accord qu'il parle précisément de comment est-ce que te vient l'inspiration, qu'est-ce qui t'inspire et pourquoi tu fais ce que tu fais, en gros.
C'est plus ou moins ça, effectivement. C'est genre en mode, comment est-ce que tu as décidé d'en faire ton métier, quelles études t'as fait, quelles études tu n'as pas faites, et oui, et pourquoi est-ce que tu dessines ça, pourquoi ça plutôt qu'autre chose. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment, ils expliquent en fait leur process créatif. Et oui, il y avait des choses que j'ai apprises. Et alors, peut-être rien vraiment de très précis, mais surtout ce que j'en retiens, entre guillemets, c'est que c'est pas forcément la route, la voie royale, entre guillemets, qui te permet de faire ce métier-là et d'obtenir ce qu'ils ont. Parfois, justement, il y en a certains qui ont commencé, qui étaient genre, enfin, souvent, tu vois, c'est des gens lambda, ils sont comme toi et moi, et ils sont pas forcément hyper talentueux de base, etc. Mais en fait, tu te rends compte que, ils ont un peu tous le profil, c'est un peu des rêveurs, etc. Puis en fait, ils vont réussir à rentrer dans les écoles alors qu'ils étaient pas hyper bons ni rien, etc. Et de fil en aiguille, ils sont contactés par des marques, etc. Souvent, il y a aussi un peu de culot, il y a aussi un peu de croire en ce que tu fais, te mettre à fond dans le travail et tout. Et en fait, voilà, moi, ce que je dirais que ça a pas forcément répondu à des questions précises, à part le fait que, une fois de plus, si tu veux quelque chose, et ben genre faut croire en toi et faire ton truc à fond, genre le pousser jusqu'où tu peux. Il y en a, en fait, c'est vraiment ça, c'est en mode genre ils dessinaient leurs petits trucs, etc. Genre par exemple, il y en a un qui s'appelle Hugo Gattoni, UGOGADTONI. Est-ce que j'ai mis les bons T au bon endroit? Oui, c'est bon. qui est dessinateur, et lui justement il disait que genre son délire c'était de faire plein de petits personnages et trucs et machin, et avec Rotring noir, genre en mode plein de petits persos.
Ouais, Rotring, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une méthode
très fin.
Exactement.
Ouais. C'est une méthode du blinde. Coup avec où tu fais plein de petits points, c'est ça?
Non, c'est du pointillisme.
C'est juste un Rotring, c'est juste un stylo avec
c'est une marque de stylo, OK.
Avec une pointe très très fine.
Et ça coûte vraiment très très cher, et il me semble que c'est de l'encre de Chine que de lui mettre dedans.
Normalement, c'est de l'encre de Chine. Ouais.
Et ouais, c'est un matériel de pro. Ouais, ma maman, elle a jamais voulu me prêter les siens. Bref, et donc du coup, et voilà, donc il était là, il faisait ses petits trucs. Et en fait, son délire, c'est vraiment genre, il prenait des toiles de 2 mètres sur 1, et il disait genre, moi, mon père, il rentrait, il voyait que genre je rentrais de l'école, et il voyait mon énorme toile à l'intérieur où en plus je dessinais des gens à poil, machin et tout, et genre il était en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi.
Ouais.
Et en fait, il a percé dans son truc, il a continué, il a vraiment trouvé sa patte, etc. Et il a été contacté par Hermès. Aujourd'hui, ce type fait des dessins et des trucs vraiment de fou sur des carrés Hermès, en fait. Il a designé le motif et tout. Il a décroché tout un tas de trucs et de contrats et tout, etc.
Est-ce qu'il raconte comment ça s'est passé, la mise en contact avec Hermès? c'était genre du jour au lendemain, il a reçu un mail en mode on veut que tu travailles pour nous.
Ouais.
Ou c'était
C'est hyper marrant cette histoire. Alors, je vous l'invite à l'écouter. Je vous invite à l'écouter, mais franchement, ouais, c'est assez drôle.
Tu peux la raconter, hein. Je pense pour donner envie aux gens.
Bien sûr, mais je vais le faire. Et en fait, il reçoit un coup de fil un jour. Et genre on lui dit oui voilà on aimerait bien te rencontrer, on aime bien ce que tu fais et tout. Il est en mode genre ouais ok très bien, c'est qui? Ben c'est je sais plus le créateur des, enfin des, on bosse chez Hermès et tout ça. Ah ok grave cool ok. Du coup il y va etc. Il disait ouais je savais pas trop, genre moi j'avais jamais vraiment eu d'entretien d'embauche, genre tu vois il était tout jeune, ouais. Et tout. Il est en mode genre je fais quoi, je mets un jean, je mets des baskets, non. Bah. Et donc
ouais,
il
pour aller chez Hermès c'est un peu genre
ouais t'imagines la pression quoi, tu dis ouais en même temps j'ai le droit d'avoir un peu un look d'artiste,
ouais.
Mais d'un autre côté c'est Hermès, je sais pas trop si on va me laisser passer la réception, si bon il a pas dit ça hein, mais j'imagine. Et du coup et en fait il dit ils ont fait que parler, à aucun moment ils lui ont dit on a envie de bosser avec toi ni rien, vraiment que de parler genre ah ouais tu fais quoi machin, tu sors d'où, t'en penses quoi, etc. Hermès apparemment ils ont aussi une sorte de cabinet de curiosité avec une collection absolument démente de tout plein d'objets et trucs, etc. Et donc, du coup, voilà, Hugo, il dit qu'à aucun moment, il savait trop, du coup, ce qu'il foutait là. Genre, c'était cool, etc. Mais tu vois, genre, on discutait, à aucun moment, ils ont dit, on veut que tu ne bosses pour nous, ni rien. Et en fait, pendant plusieurs mois comme ça, ils se sont revus. Toujours pas de, tu veux bosser avec nous, ni rien. Il dit que même un jour, du coup, bah, il avait dessiné, du coup, les trucs du cabinet de curiosité, il leur avait montré et tout. Il lui avait dit, non, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Genre, enfin, pour l'instant, t'as rien demandé, donc, poste tes rotring et voilà.
Ouais.
Et puis après, bon, je me souviens plus très bien comment ça finit cette histoire, mais du coup, ben voilà, ils ont proposé de dessiner quelque chose. Ouais,
mais c'est marrant qu'ils passent pas direct en mode, bon, bah voilà, en vrai, depuis le début, si on t'a contacté, c'est qu'on a repéré ton style et qu'on a envie que tu travailles avec nous. C'est genre, on va apprendre à le connaître et puis on verra.
Exactement. Mais d'ailleurs, que je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quand même rare de nos jours d'avoir des entretiens d'embauche qui se passent comme ça.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, c'est clair, c'est net et précis, c'est dans l'objet du mail. Genre, tu sais pourquoi t'es là pour te vendre, etc. Et là, vraiment, tu sens que Hermès déjà peuvent s'offrir le luxe, en fait, de rencontrer quelqu'un comme ça et de le laisser justement un peu patienter, d'être vraiment sûr.
C'est pas genre bah maintenant on travaille, allez hop, on n'a pas le temps, dépêche-toi de faire ton truc, on a d'autres personnes à voir après. Là c'est on
tu
veut savoir déjà qui
pour
tu
lui
es.
Ouais, c'est ça, je pense pas qu'il y en avait toute une chaîne et tout. Et alors d'ailleurs franchement je vous invite à regarder ça sur Instagram, enfin sur internet tout court. Donc le premier carré, enfin je trouve que c'est le premier hein, qu'il a fait pour Hermès, s'appelle Hippopolis. En gros, c'est une ville faite avec des espèces d'énormes chevaux géants, genre en mode marbre, etc. Et franchement, ce qui est remarquable, c'est genre l'architecture et le nombre de petits détails absolument mais fou, malade. Et en plus, si vous aimez un peu le surréalisme, les paysages un peu à la Dali, etc., c'est un peu ce genre de délire, quoi, avec une ville mais qui fait en même temps des formes de personnages et tout. Et après, carrément, ça a été adapté. Ils en ont fait une petite animation qui est hyper chouette. Et voilà, donc franchement, regardez ça.
C'est cool, je mets le lien sur le chat et j'ai mis le lien de son site internet aussi à Hugo Gattoni.
Et question un peu bête, mais il se retrouve où le podcast? Sur YouTube, sur...
Alors, le podcast est sur SoundCloud, sur l'appli iTunes du coup, et il est également sur Deezer. Il y a eu un petit souci avec SoundCloud, ils ont disparu, etc. Mais normalement, ils devraient revenir bientôt. En tout cas, ils sont tous sur Deezer.
Ok.
Donc voilà. D'ailleurs, oui, je savais pas encore il y a pas très longtemps. Enfin, si, du coup, je l'ai rapidement découvert étant donné ma passion des ventes. Mais que, ouais, il y a des podcasts sur Deezer.
Il y a des podcasts sur
Deezer.
C'est
trop bien.
Et oui. Il y a notamment un podcast qui s'appelle Nostalgie 2050 et où il y a une chronique de Sophie Marie Laouy qui fait l'émission.
Ah.
Et oui. Donc, si tu n'avais pas encore écouté, voilà, tu peux rajouter à ta liste de podcasts à écouter.
Très bien.
Donc, tout de suite.
Et un de plus.
Et du coup,
3000.
Est-ce qu'il y a un autre épisode de ce podcast qui t'a marqué un peu, où il y a genre une anecdote où tu t'es dit genre waouh, trop cool, la vie c'est fou.
Je sais pas, il y en a tellement. Là, je regarde parce que du coup j'ai ma petite liste.
T'as noté quelques trucs.
Ouais. Alors en fait, finalement, j'ai juste noté leur nom et ce qu'ils font, mais finalement, je les connaissais bien. Ouais, il y en a un. Alors c'est Malika Favre. Je sais pas si vous la connaissez, elle fait beaucoup de choses. En fait, c'est des aplats de couleurs. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ombre, etc., de petits détails, forcément de motifs, etc. Et en fait, elle a été contactée par le New York Times pour faire les unes. Donc, du coup, récemment, il y a beaucoup de unes qui sont d'elle, en fait, genre de couverture, etc. Et elle bosse, je crois, beaucoup dans la pub, etc. Finalement, beaucoup dans la presse aussi et l'édition. Et oui, par exemple...
Ah, mais ok, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais plus si Mademoiselle a fait un article dessus, mais elle a fait la couverture du New Yorker où il y a quatre femmes chirurgiens au-dessus d'une table de chirurgie. Donc, c'est vu en contre-plongée. Donc, on voit les quatre femmes avec leurs masques. Et en fait, ça a été repris par plein de femmes chirurgiens dans le monde entier. Et ça a été un hashtag. Alors, je n'ai plus le hashtag dans la tête, mais je vais essayer de retrouver l'article si on en a fait un sur Mademoiselle. Et en effet, la couverture est vraiment magnifique, quoi. Mais en fait, c'est assez marrant parce que du coup, là, tu me parles de deux artistes. Il y en a un qui a bossé avec Hermès, une autre qui bosse avec le New Yorker, le New York Times, etc. Et en fait, c'est des artistes qui sont déjà genre bien installés.
Bah ouais, qui commencent à peser grave, mais dont on connaît pas forcément le nom, je pense, tu vois. Effectivement, moi, Malika Favre, je savais pas que c'était Malika Favre, mais une fois que j'ai vu ce qu'elle faisait, j'étais en mode genre, mais oui, mais évidemment, mais bien sûr. Et j'en ai mis plein sur Pinterest et tout, je savais pas. Et ouais, donc effectivement, oui, qui commencent déjà à avoir une bonne popularité. Après, ils sont pas forcément tous au même stade, entre guillemets. C'est vrai que Malika Favre, je pense que c'est vraiment l'une des plus célèbres de cette liste. Okay. Il y en a qui le sont un peu moins. Mais justement, ce qui est fou, c'est que même ceux qui sont beaucoup plus célèbres et ceux qui le sont moins, etc., finalement, ils ont tous le même niveau d'humilité. Il y a ce côté, parfois, dans l'art et avec les artistes, où on se dit, ouais, c'est un peu, genre, ils se la pètent et tout. Ils sont un peu genre, ouais, t'as vu, moi, l'art, les beaux-arts, machin, et tout ça, se regarder comme ça, langoureusement. Et en fait, franchement, quand tu les écoutes, pas du tout. Alors, il n'y a pas non plus de modestie mal placée, vraiment à base de genre, non, c'est ce petit gribouillage. Non, genre, justement, ils sont conscients de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils ont fait, mais en même temps, ils sont très posés, quoi. Ils parlent comme toi et moi, ils ont les mêmes tics de langage, les mêmes trucs. Et ouais, et donc, du coup, ouais, t'as vraiment disons, des niveaux de popularité très différents.
Ouais.
Mais voilà, mais dont on ne connaît pas forcément les noms.
Ok. Et y a un autre truc que je me demandais, c'est est-ce que toi, ça t'a fait réfléchir à ta manière de travailler ?
Ouais, carrément. Je pense que déjà, ça m'a redonné un peu confiance en moi. Alors, en même temps,
cool. Oui, j'adore les trucs comme ça. Genre, ça, j'ai écouté, ça m'a redonné confiance en moi.
Mais alors, tu sais, c'est un peu oui et non, parce que tu sais, t'as le côté en même temps, genre, du coup.
Ouais, moi, j'ai pas encore travaillé avec Hermès.
Et t'es en mode, genre, ouais, enfin, j'avoue, en même temps, c'est vraiment trop magnifique. Jamais je ferais ça. Et puis, d'un autre côté, justement, quand t'écoutes leur histoire, que tu vois que les gars, ils sont sortis de la même école que toi, genre, pas non plus forcément les meilleures écoles parisiennes du monde. Hein. Il y en a, ils ont fait des prépas un peu plus petites, machin, etc. Bon, ceux qui, du coup, ont fait des écoles d'art savent que c'est toujours un peu. Enfin, il y a pas une guerre, mais je veux dire, t'as un peu un classement, un truc un peu chiant, quoi. Et en réalité, là, ils viennent de vraiment partout, ils ont pas forcément fait d'école, vraiment de ouf et tout, et ils arrivent à s'en sortir très bien, et tu vois qu'en fait, voilà, ça m'a redonné confiance, parce qu'effectivement, tu te dis, ouais, bon, bah, en fait, si eux, etc., ils sont un peu démenés pour, etc., moi aussi, ça peut m'arriver, il suffit juste... suffit d'y croire. Mais voilà, et de beaucoup de travail surtout. C'est beaucoup de travail. On dit toujours, ouais, mais t'as du talent, t'as un bon coup de crayon, etc. Genre, ok, c'est bien, mais franchement, c'est genre 80% de boulot et le reste
aide,
de
mais talent. Si tu bosses pas à côté, c'est cool. Clair. Tu sais faire un joli dessin, sauf qu'après, il faut avoir l'idée, il faut le mettre en place. Puis c'est pas un dessin qui...
C'est clair. Et puis la composition, tout ça, c'est des choses qui s'apprennent. Un bon trait de crayon, mais si c'est mal composé, donc c'est-à-dire si les éléments sont mal organisés dans la page, par exemple, ça a tellement moins de force qu'à la limite quelqu'un qui dessine un peu moins bien ou genre qui fait carrément des collages avec des bouts de papier mais qui a hyper bien composé, quoi.
Parce que le cadre, ça permet aussi d'expliquer à la personne qui voit pour la première fois un dessin, avec le cadre, on va se dire, ok, il faut que je le regarde directement les yeux du personnage, par exemple. Ça permet de rentrer dans le dessin. Donc si on coupe un portrait là, soit c'est fait exprès, soit c'est qu'on n'est pas très doué.
C'est ça. C'est ça, effectivement. Mais ouais, voilà. Donc oui, effectivement, ça a changé un peu ma façon de travailler par rapport à ça. Et aussi le côté de... je pense que parfois, genre, faut vraiment se lever le matin et se dire, tu sais quoi, genre, j'en veux. Et ok, mon rêve, c'est quoi? C'est de bosser avec, j'en sais rien, moi, Nike ou que sais-je. Eh ben, très bien, je vais faire ce que je veux pour y arriver. Genre, je vais aller tous les jours, je vais créer un Instagram où je vais faire que des dessins de Nike jusqu'à ce qu'ils me repèrent et qu'ils viennent de me demander de bosser. Ouais. Ou au moins qu'ils me disent, merci, c'est flatteur, mais on n'est pas intéressés. Un peu comme un râteau.
Un peu comme un râteau, mais on se relève toujours des râteaux. Et exact. C'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est vraiment, genre, enfin... tu m'as totalement happé. Je vais totalement aller écouter ce podcast. Ça a l'air très très chouette. Est-ce que genre tes deux épisodes favoris, c'est Malika Favre et Hugo Catoni ou
Je sais pas. Franchement, je pense que mes épisodes préférés, donc il y a effectivement Malika Favre, ouais, mais vraiment mon préf de chez préf, donc c'est Hugo Catoni. Ensuite, il y a celui de Tirsa.
Alors Tirsa, tu peux me dire
T-Y-R-S-A. Okay. C'est un graphiste, mais surtout typographe. Genre, t'as dû voir ses typos partout. En ce moment, il fait beaucoup de typos sur des murs. Genre, tu sais, par exemple, pour habiller des entreprises ou des trucs comme ça, ou enfin, des entreprises, c'est un peu naze, dit comme ça, mais. Mais ouais, tu sais, genre en mode des énormes messages sur le mur, etc. C'est un gars qui a commencé vraiment par faire du graphe quand il était ado et tout. Et il a continué, il est vraiment trop doué. Et maintenant, les gens du monde entier, des grosses marques, veulent bosser avec lui. Par exemple, il me semble, si je dis pas des bêtises, mais qu'il a. Ou alors, je sais plus, il me semble qu'il y a une histoire avec Zlatan, genre en mode et un tatouage de Zlatan. Mais genre, soit il lui a designé, soit je sais plus.
Alors, je me demande s'il n'y a pas une histoire avec Zlatan qui enlève son t-shirt à un match de foot et en fait il était entièrement tatoué. Alors, je crois que c'est interdit. Alors, vraiment désolé si vous y connaissez en foot, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires parce que c'est possible que je dise de grosses bêtises. Mais il me semble que t'as pas le droit d'enlever ton t-shirt en entier quand t'es en match de foot et qu'il l'avait fait et que sur lui il avait plein de tatouages et c'était un message qui faisait passer pour aider les enfants.
C'est faux tatouages, c'est des tatouages temporaires. Voilà, ouais. Et bien ils ont été designés, il me semble, justement partir ça.
Ok,
je crois que c'est ça l'histoire. Bon, franchement, si je dis n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Je l'ai pas réécouté depuis un petit moment, donc
mais ouais, bah c'est ouf en fait. Je trouve ça,
et puis c'est apaisant
en fait. Je trouve ça vraiment très cool parce que c'est des gens que genre la majorité d'entre nous ne connaissent pas. Est-ce que je fais une bonne liaison ou pas, je ne sais pas, bref, c'est pas grave. En gros, on les connaît pas, ils sont pas connus du grand public, et pourtant leurs histoires, tu peux te retrouver dedans. Mais je pense que tu sois illustrateur ou non, enfin en tout cas moi je sais que je me retrouve hyper facilement dans des histoires, genre dans la poudre je suis là genre oui grave, alors que vraiment j'ai pas le niveau des meufs qui sont dans la poudre, et je suis là ouais non mais ça c'est hyper intéressant ce que vous dites, oui tout à fait. Et du coup je trouve, c'est ça que je trouve le plus intéressant en fait dans les interviews en podcast comme ça un peu long format. On n'a pas dit combien de temps ça dure à peu près.
Alors justement c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment une conversation chill et tout, donc en fait ça dépend un peu. Par exemple je crois qu'un des plus courts doit faire 40 minutes,
ouais.
Mais là, il vient d'en faire un avec Yu et Wu qui dure 2h30. Donc du coup, il l'a séparé en deux parties.
Waouh.
Donc là, j'ai écouté que la première partie, c'est trop bien derrière. Enfin, ils sont tous
et
trop bien.
Et il y a combien d'épisodes
enfin... Alors, pour l'instant, il y en a 16. Du coup, 16.1, il y aura un 16.2 pour okay. la suite. Mais c'est ça,
je me demandais
16.
Pourquoi c'était 16.1. Je comprends pas. Ok, voilà. Et donc du coup, 2h30 de podcast.
Ouais, alors donc là, j'ai écouté la première partie qui faisait 1h15.
Ok.
Franchement, j'étais tellement triste qu'on s'est arrêté. Parce que tu sais, vraiment, tu rentres, c'est une conversation. Je pense que c'est pas un truc, et vraiment, je pense que ça peut intéresser, même si l'art, c'est pas forcément ton dada ou ta première passion. Ouais. Parce que c'est vraiment hyper intéressant, c'est très reposant, je trouve. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime bien entendre des gens parler dans mes oreilles. Parfois, c'est vrai tu sais, tu te mets des trucs en fond, genre une série, un machin, tu regardes même pas, tu t'en fiches. Mais en fait, c'est juste pour entendre parler, etc. Et là, ouais, c'est vraiment c'est ce genre de truc, quoi. Donc, ouais, 2h30, franchement. Ouais.
Et est-ce que parfois ils parlent de, je sais pas, d'artistes qui les ont inspirés et tout, et genre tu t'arrêtes, tu mets, enfin pas forcément pause, mais genre tu vas regarder les artistes et tu découvres aussi des trucs de ton côté?
De ouf. Mais en fait, ce qui est drôle surtout, c'est que même eux, tu vois, les artistes en eux-mêmes, en fait, j'écoute beaucoup moi dans les transports, dans le métro. Dans le métro, il n'y a pas de wifi. Il n'y a pas de 4G, il n'y a rien, tu vois. Enfin, dans le mien en tout cas. Et donc, du coup, genre, tu sais, je les ai pré-téléchargés, etc. Donc, j'écoute, etc. Puis, ils parlent d'œuvres et de machin et de trucs. Mais je ne peux pas aller voir ce que c'est avant d'arriver à la fin. Et du coup, voilà, c'est ça. Vraiment, je fais des notes, genre, penser à checker ça, ça, ça et ça. Et limite, je trouve que c'est un exercice assez intéressant à faire. C'est-à-dire que tu ne vois pas à quoi ressemblent les œuvres dont on te parle. Donc, tu peux que te l'imaginer parce qu'ils en parlent un peu. Parfois, ils décrivent vaguement, ils disent pourquoi, etc. Et du coup, quand tu te fais un peu toute une idée dans ta tête, et quand tu vas vérifier après, et ben on tombe genre ah mais en fait pas du tout,
ouais. c'est comme toi là quand tu décris le travail de Hugo Gattoni genre sur le carré Hermès qu'il a fait, etc. Tu parles de chevaux, tu parles de machin nanan, et les gens sont là ok je vois, puis après ils vont voir le truc, ils vont faire ah non pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais c'est pas grave.
Exactement, surtout que je suis pas sûre d'avoir très bien décrit, mais
si, franchement... j'ai envoyé le lien sur le chat et c'est plutôt réaliste je trouve.
Et bien c'est cool.
Bah, en tout cas, très cool. Je mettrai donc tes podcasts, enfin tes épisodes favoris de ce podcast, et puis tous les liens dont on a parlé, genre les artistes, etc., pour que les gens puissent les retrouver. On va faire une courte pause musicale et ensuite on revient avec Elena qui va nous parler donc de culture étrangère. Suspense. À tout de suite.
Sunshine in your life, each time the rain fell from your sky. I've wept two drops from your eyes. I've done my best to make you smile. Now that I'm done, you're begging me for mercy. Why is it now that I'm gone, you're begging me for mercy? Oh, it happens to me very clear. Oh, you always come when it's too late. When you were sick, when you felt bad, I kept on being by your side. And even when you let me down, yes, even when you let me down. Now that I'm done, you're begging me for mercy. Why is it now that I'm gone, you're begging me for mercy? Oh, it happens to me very clear. Oh, you always come when it's too late. Everything I have, I only meant to make you glad. Was I the only one to know? Was I the only one who saw? Now that I'm torn, you're begging me for mercy. Why is it now that I'm gone, you're begging me for mercy? Oh, it happens to me very clear. Oh, you always come when it's too late. It happens to me very clear. Oh, you always come when it's too late.
Et nous voici de retour. C'était le morceau Mercy de Charlène. On continue donc ce C'est ça qu'on aime, numéro 15 déjà. Donc après avoir écouté Caroline qui nous parlait donc du podcast Art Oriented, on va passer à un sujet. Alors comme d'habitude, on fait un grand écart en termes de sujet. Je n'ai pas l'habitude de choisir des thématiques qui se ressemblent. Elena.
Oui, là, je pense que tu peux pas vraiment faire plus
éloigné. Non, je sais pas si je pourrais faire plus éloigné un jour. Je t'en prie, de quoi tu veux nous parler ce soir ?
Du coup, moi, je vais parler des aborigènes de Taïwan. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire « Quoi ? Il y a des aborigènes à Taïwan ?» Oui.
On connaît, en même temps, cela dit, pour être clair, on connaît très peu de culture, hormis notre culture occidentale, donc souvent, c'est quoi ?
Moi, j'ai un petit tic, c'est-à-dire que j'adore les cultures étrangères et surtout celles qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que j'ai appris pendant un an l'inuit. C'est pour montrer un peu mon niveau de...
Génial.
Je vais chercher des trucs que personne ne connaît. Et donc, j'ai découvert...
Mais alors, attends. Ouais. Je veux faire une parenthèse inuit. Ouais. À quel moment tu t'es dit que tu allais apprendre l'inuit ?
Alors, je crois que j'ai commencé à vouloir apprendre l'inuit quand j'étais au lycée, vers 17 ans. Mais c'est trop bien, je veux apprendre, je veux comprendre. En fait, j'ai un peu le truc de comment les gens pensent ailleurs.
Oh oui, I feel you.
Voilà, okay. Et du coup...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et j'aime beaucoup le froid.
Ok.
Et c'est toujours plus pratique. Quand il fait froid, tu peux rajouter un pull. Quand il fait chaud, non.
On ouais. est d'accord.
Voilà, ah, mais et à poil,
encore high five.
Et du coup, je me suis intéressée à la culture inuite et j'ai vu qu'à Paris, à l'INALCO, on peut apprendre l'inuktitut, qui est la langue inuite.
Ouais.
Du coup, j'ai pris un an de cours. Alors, je suis nulle. Hein. Je suis nulle en langue. J'ai beau essayer de tout mon petit cœur, j'y arrive pas. Mais tout ce qui était légende, des trucs comme ça, c'était passionnant. Et j'ai toujours 5 ans, hein, donc quand on me raconte des histoires, je suis émerveillée. C'est ça. Et comme bah, je suis illustratrice, ça m'a aussi inspirée pour faire des dessins, faire des livres sur les légendes inuites. Et quand, du coup, j'ai découvert qu'il y avait des aborigènes à Taïwan et que personne ne les connaissait, même les Taïwanais, je me suis dit, il faut absolument que les gens découvrent ça.
Alors toi, comment t'es venue, comment t'as découvert qu'il y avait donc des tribus aborigènes à Taïwan ?
Alors j'ai découvert ça parce que mon frère vit à Taïwan et sa femme est taïwanaise. Et elle a des amis aborigènes et quand ils se sont mariés il y a un an, au mariage, il y a des amis qui sont venus habillés en tenue traditionnelle et qui se sont mis à chanter et danser. Et elle m'avait déjà dit qu'il y avait des aborigènes à Taïwan, mais j'étais un peu... Ouais, c'était avant, enfin, j'avais pas vraiment tilté.
Ouais.
Et quand je les ai vus danser, chanter, vraiment être là un peu, je me suis dit, oh, ils existaient vraiment, tu vois, c'était un peu ça. Et je me suis dit, il faut absolument que je découvre quelles sont leurs cultures.
Ouais, ça t'a intrigué, genre moi par exemple, un truc que je trouve trop cool, c'est la mythologie et comment est-ce qu'on a inventé autant d'histoires, etc., et de légendes, etc. Et toi, là,
c'est parti là-dessus.
Tu t'es dit genre, ouais, trop bien. Et quelle est votre culture, en fait ?
C'est ça. Et pareil, la mythologie et les légendes, voilà. Et c'était le point de...
De départ.
C'est ça. Je vais racontez-moi des histoires. Un petit côté père Castor, mais bon. et du coup, j'ai découvert qu'il n'y a pas... On dit aborigènes de Taïwan. On a l'impression qu'ils sont tous pareils. Mais en soi, il y a 16 tribus reconnues qui ont toutes une culture différente.
Ah, ça veut dire qu'il y en a qui commencent à être reconnus par l'État ?
Par l'État, oui.
Okay. Parce qu'il y en a qui ne sont pas reconnus ?
C'est ça.
Ok.
Pour revenir sur... On va faire un point
je te laisse...
Voilà. Taïwan, donc, c'est une île au large de la Chine. Et il y a 6000 ans, sont arrivés les premiers habitants, qui sont donc les aborigènes. Bien sûr, comme c'est une île, il y a forcément des gens qui viennent et qui décident que c'est à eux. Donc, ils ont vu passer les Hollandais, les Portugais, les Espagnols. Puis les Chinois. Et au fur et à mesure, les pauvres aborigènes qui étaient là, ils ont subi des guerres, vous êtes des sauvages, donc il faut absolument vous expliquer comment on doit bien vivre.
Ah là là.
Voilà, c'est toujours rigolo. C'est
récurrent, hein.
Voilà. Et surtout, il y a eu donc, les Chinois qui sont arrivés en 1600 et quelques, je ne suis pas très douée avec les dates, mais c'est à peu près comme ça, et qui ont vraiment, là, pour le coup... un peu tuer la culture au début.
Ouais.
Puis, en 1800 et quelques, là encore, les Japonais sont arrivés et sont restés pendant 50 ans. Et là, c'est ce qui a fait le plus de mal à la culture aborigène parce qu'ils ont interdit des choses très importantes, comme certaines tribus avaient l'habitude de couper les têtes des voisins. Bon, dit comme ça, on dit « ouais, c'est normal ».
Pourquoi
c'est...
ils l'ont interdit
Mais franchement, voilà. Mais c'était un truc qui faisait partie... c'était pas couper la tête du voisin juste parce que c'est rigolo. Je ne sais pas. Mais quand on tuait une tribu voisine, on récupérait sa force, en fait. Et la tête était célébrée dans le village. Et quand un jeune homme coupait la tête, il devenait un homme. Et avait le droit à un tatouage. Sur le visage. Et le tatouage sur le visage était un moyen de passer à la mort, d'être autorisé à rentrer dans le paradis. Donc en fait, quand les Japonais ont interdit de couper les têtes, ils ont interdit l'accès au paradis. Ouais. Quoi.
C'était un peu genre en gros une entrave à leur religion, quoi.
C'est ça. Et il y a plein de trucs comme ça. Ils les ont obligés à prendre des noms japonais, à arrêter de s'habiller de leur manière traditionnelle et compagnie. Et puis Chiang Kai-shek, enfin à la fin de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont dû rendre Taïwan à la Chine, et Chiang Kai-shek est arrivé, et il a un peu continué avec le Kuomintang, je n'ai pas un accent très très bon, mais qui était le gouvernement qui était à Taïwan. Ils ont continué ce côté, les aborigènes sont des sauvages, il faut leur apprendre à vivre correctement. Et jusqu'à très récemment, être aborigène, c'était considéré comme un culte sauvage. Même pour la génération des parents de ma belle-sœur, donc un peu comme mes parents, vers 50-60 ans. Et quand on disait à quelqu'un « Ah, tu ressembles à un aborigène », ça veut dire « Ah, mais t'es pauvre, enfin, tu sais rien, t'es un sauvage ». Mais là, avec la génération donc, des 20-30 ans, il y a vraiment une volonté de dire on a notre culture, on en a marre d'être mis sur le côté, d'être des sous-hommes. Donc il y a une revendication de la culture.
Ce qu'on n'est pas, en fait.
Non.
C'est ça. C'est, en fait, c'est le problème, en fait, je pense, dans chaque culture aborigène. Je crois que c'est et ça a été longtemps... Ok, ça a été et c'est encore le problème, je pense, aujourd'hui en Australie et enfin dans plein de régions du monde où c'est comme aux USA en fait, les Native Americans,
ils sont considérés
et, voilà. Et maintenant ils sont là. En fait, on avait une culture à la base, laissez-nous tranquilles peut-être.
Voilà. Et maintenant, du coup, à Taïwan, il y a que 2% de la population qui est aborigène.
Ok, mais c'est assez à cause des massacres et...
À cause des massacres et du mélange au fur et à mesure, parce que avant, donc, tout Taïwan est rempli d'aborigènes.
Est-ce que tu aurais genre un chiffre d'habitants à Taïwan ? Ou une taille d'île ?
Ça fait 15 fois la Corse, si ça peut vous donner une...
Okay. Moi, ça me donne une idée, voilà. À peu près. Écoute, ok.
Et donc, il y en avait partout, et au fur et à mesure, les aborigènes se sont retrouvés juste dans la montagne. Donc, comme je disais, les 16 tribus qui sont... reconnus, c'est parce que pour être reconnu, il faut avoir gardé sa langue, avoir des points de culture assez particuliers et être assez distingué des autres. Et donc, il y a ceux qu'on appelle les Pingpu, ce qui veut dire autres, je crois, et qui sont tous ceux qui sont des aborigènes des plaines, qui ont été mélangés avec les Japonais, les Chinois, et qui donc, du coup, n'ont pas une culture assez particulière. Et avant, quand les Japonais sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait des aborigènes, ils ont fait « bon, il y a 9 types d'aborigènes ». Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'ils en avaient englobé énormément. Et donc, j'ai fait un petit dessin. Et donc, je ne sais pas si c'est bien cadré.
Je pense qu'on peut mettre plus près, mais si tu veux, tu peux me le passer. Comme ça.
ou moi, je peux le faire, tiens, parce que comme ça, toi, tu fais la régie, et puis moi, je fais modèlement, voilà. Là. Très bien.
Et donc, du coup, sur le dessin, il y a les 12 tribus principales. Parce que donc, dans les tribus, il y a des tailles différentes. Il y a la plus grosse tribu, ils sont 12 000, je crois. Et la plus petite, ils sont 400.
Merci, Caroline.
Donc, voilà. Et donc, il y a plein... ils sont surtout sur la montagne. On peut en retrouver aussi dans les villes. Et le truc que je précise, c'est que c'est des aborigènes, mais ils sont pas habillés en pagne, ils ont pas des flèches et des
oui,
trucs.
Oui, alors
comme ça,
c'est souvent les. Voilà. Les
c'est,
les clichés,
on a
quoi.
Tendance à penser ça, parce qu'aussi, on a les papous en Amazonie, des trucs comme ça, qui sont un peu comme ça pour certains. Mais à Taïwan, il y en a dans le métro à Taipei, on ne les reconnaît pas forcément, ils sont juste un peu plus foncés. Mais c'est tout. Et du coup, je voulais juste expliquer que non, ils sont pas en pagne. Pas tout le temps, en tout cas. Ils sont pour leur fête, mais c'est parce qu'ils portent la tenue traditionnelle.
Donc c'est la fameuse tenue traditionnelle dont tu parlais tout à l'heure, que tu as vue au mariage donc, de ta belle-sœur et
oui,
de ton frère.
Oui, il y avait... c'était donc les amis de ma belle-sœur sont d'une tribu qui s'appelle les Paiwan. Et donc, ils avaient la tenue des Paiwan. Mais chaque tribu a une tenue particulière.
Et donc, toi, comment tu t'es intéressée à cette culture. Tu as donc rencontré des gens, je suppose, mais est-ce que tu as lu des ouvrages
Alors, autant dire que...
Il y a peu de choses.
Il n'y a rien. Okay. C'est pas il y a peu de choses, mais il n'y a rien. À moins qu'on parle chinois, mais ce n'est pas mon cas.
Okay.
Oui, j'aime bien mettre des difficultés en plus. même en chinois, c'est très compliqué de trouver des informations parce que ce n'est pas forcément un sujet qui intéresse vraiment les gens. Ou en tout cas, pas encore assez pour que ce soit mainstream. Okay. J'ai réussi à trouver des trucs en anglais, mais c'est surtout des trucs traduits du japonais des 9 tribus principales.
Voilà. Ça fait beaucoup de traductions qui entrent en jeu.
C'est
quoi.
Ça, voilà. Et c'est aussi pour ça, mon projet de fin d'année, c'est de faire un livre sur la culture aborigène et de parler des 16 tribus. Et je veux parler des 16 tribus d'un point de vue égal, quoi. Parce qu'on retrouve souvent les 3 principales tribus, donc Amis, Paiwan et Atayal, qui sont les plus grosses. Mais après, il y a tous les autres, dont 1, 2, qui ont été reconnus il y a un an.
Ouais.
Ceux qui font 400 et 300 personnes.
Et donc,
personne n'est au courant, même quand j'en parle, quand je suis à Taïwan, j'en parle. Ah bon, ceux-là, ils existent, c'est qui? Je ne connais pas.
Ok. Et du coup, comment tu vas faire du coup, pour écrire tes livres, toi Alors, c'est plutôt des livres jeunesse
Alors, j'ai 2 types de livres. J'ai un livre plutôt documentaire, on va dire adulte.
Explication voilà.
Explication, okay. Là, qui... Donc, j'ai rassemblé toutes les informations. Ça m'a mis un an pour tout rassembler. En allant voir les gens, en regardant sur Internet, en trouvant des bouquins, en demandant beaucoup d'aide à ma belle-sœur pour traduire du chinois au français. Et sinon, j'ai un livre de légende pour plutôt jeunesse, pour parler, pour montrer des légendes, parce que j'aime bien la mythologie, et parfois j'en ai un petit peu marre d'avoir celle d'Égypte et de Grèce. Il y en a d'autres, et voilà. C'est bien, mais il y en a d'autres.
Non, mais oui, c'est clair. Ouais. Bah, on est habitué à un truc et des fois on va pas voir vraiment ailleurs, donc c'est vraiment intéressant, je pense, comme ça. Démarche de dire en fait, oui, regardez. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure hors antenne, on discutait un peu et tu me disais, oui, en fait, ma prof elle croit encore que je vais parler des aborigènes de Thaïlande. Et t'es là, alors peut-être qu'il y en a en Thaïlande, mais c'est pas mon sujet.
C'est pas les miens. Et j'ai eu la chance de participer à des fêtes là-bas, fêtes aborigènes. Et je raconte cette petite anecdote parce qu'elle est assez rigolote. Je venais de voir un représentant étudiant d'aborigène qui m'a un peu sapé le moral en me disant « Mais vraiment, tu es qui ? Enfin, pourquoi tu t'intéresses à ça ?» Il m'a dit cette magnifique phrase « Intéresse-toi aux aborigènes de France, les Bretons. » Alors je suis désolée à tous les Bretons, c'est pas méchant. Mais il m'a dit ça. Je dis oui, mais moi, c'est les aborigènes de Taïwan qui m'intéressent, mais c'est un peu, tu es blanche, tu n'as pas, c'est pas ton truc, on n'a pas besoin de toi. Donc ça m'a un peu sapé le moral. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est je suis partie chez le coiffeur et pour aller me faire teindre les cheveux. Et j'ai raconté cette histoire, cette mésaventure au coiffeur qui lui m'a dit, mais tu sais, je suis aborigène, moi, et je fais une fête ce week-end, viens.
Génial.
Et donc, en allant chez le coiffeur, j'ai rencontré des aborigènes et j'ai pu partir dans un village, faire la fête avec eux, boire du vin de millet, qui est assez fort, et donc danser et chanter avec eux, les pieds dans la boue, dans la montagne, c'était vraiment très sympa.
Et du coup, est-ce que genre pendant que tu discutes avec eux, est-ce que tu parles pas la langue de...
Je parle pas la langue, donc du coup, j'avais un ami... Parce que certains ne parlent même pas le chinois, ils parlent le taïwanais, qui est un dialecte
ouais.
Et du coup, j'ai un ami qui me traduisait. Et beaucoup me disaient, mais c'est marrant, tu t'intéresses à ça, tu t'intéresses à nous. Il y a plein de Taïwanais qui ne s'intéressent pas à nous et il faut que toi, tu viennes de France pour nous rencontrer. Donc ça leur faisait plaisir pour la plupart. Et j'ai eu un monsieur qui, je pense, avait un peu abusé du vin de millet. Alors, ça se voit pas là, mais je suis très grande. Enfin, je fais 1m80. Et eux, ils font plutôt 1m60. Et donc, j'arrive dans le village, 1m80, cheveux roses. Et le monsieur débarque vers moi, commence à me parler en taïwanais. Je comprends rien du tout. Et il y a des gamines vers 10-12 ans qui me parlent en anglais. Et le mec commence à me faire... Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et en fait, il trouvait que mon nez était très droit et que c'était super. Parce qu'eux, ils ont un nez plutôt épaté. Et il m'a tenu la jambe pendant à peu près 2 heures à me suivre partout, me dire « Ouais, ton nez, il est trop bien !» Merci, monsieur, c'est gentil. Moi, laissez-moi maintenant.
J'ai une question parce que tu me disais justement hors antenne que tu étais assez timide et tout. Comment tu fais pour trouver le courage d'aller comme ça genre vers des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam
Je crois
en
que
plus, tu parles même pas la langue. Genre,
je crois que c'est le côté... la curiosité prend le pas sur la timidité. Mmh. Si je veux tellement savoir ce que c'est, comprendre comment ça marche, que je dis bon, bah... Puis il y a peut-être aussi le côté barrière de la langue. C'est, au pire, ils disent la française, elle est bizarre, et puis voilà. Ouais, peut-être c'est... Je peux pas comprendre s'ils disent un truc méchant sur moi, donc du coup, ça passe. C'est peut-être ça.
Et du coup, est-ce que t'as rencontré des personnes de toutes les tribus pour le moment ou
non, j'ai rencontré les principales tribus, mais comme je disais, ceux où ils sont 400, je sais même, enfin, je sais à peu près où ils sont sur la carte, mais ils sont à 8 heures de marche dans la montagne. Il faut prendre l'avion, puis le train, puis le taxi, puis après marcher 8 heures. J'ai pas vraiment eu le temps de le faire.
T'as pas vraiment de guide, en fait.
C'est ça. Okay. Et du coup, j'ai rencontré les principaux. Et quand je suis partie en village, c'était ceux qui sont près de la capitale, dans la montagne, près de la capitale. Donc, c'était plus simple.
C'est fou. Et y a, alors c'est marrant parce que sur le chat, il y a Diane qui est là, genre « cette meuf est juste ouf, voilà, trop bien !» Et tout le monde trouve ça très intéressant, donc voilà, je tenais à te le partager. Et en fait, moi je me demandais, du coup, tu y as passé combien de temps jusqu'à maintenant? Et est-ce que tu vas du coup y retourner pour écrire tes livres?
Alors, je veux y retourner. Comme je disais, mon frère habite là-bas, donc c'est pratique.
C'est pratique.
Là, je suis revenue il y a 2 semaines. J'ai passé une semaine parce que j'étais invitée en plus à un festival et tout ça. Donc j'ai encore pu rencontrer d'autres personnes. En tout, j'y suis allée 7 fois. Et j'ai rencontré, je pense, une 20aine d'aborigènes.
Ouais.
Et de tout âge. Et j'ai interviewé des gens, petit à petit. Et je voudrais bien sûr, je vais y retourner pour parler à plein d'autres gens. Donc, on ne sait jamais s'il y a des aborigènes de Taïwan qui écoutent. Venez me parler.
Mais, et du coup, qu'est-ce que tu leur poses comme question, en fait? C'est vraiment genre un intérêt pour leur culture et qu'est-ce qui reste de leur culture maintenant je pense qu'il y a une question aussi sur les droits...
Quand le garçon m'a dit t'as rien à faire là, c'était un peu chat échaudé, craint l'eau froide. Ils ont tellement eu d'appropriation culturelle qu'ils avaient peur que je me fasse de l'argent sur leur dos. C'était pas du tout ma volonté.
Oui, donc on rappelle que les livres que tu fais, c'est pour ton projet de fin d'études.
C'est ça. J'aimerais bien trouver un éditeur, mais je ne pense pas forcément. J'espère faire un best-seller, hein, mais s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux partager les bénéfices, hein, si Hachette ou Nathan m'écoutent, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout pour faire partager la culture et sortir de juste le village. Quoi. Parce que j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il en avait marre parce que les personnes s'intéressaient. Et qu'il sentait tout seul. Il avait l'impression d'être le seul à s'intéresser à sa culture. Et que, de toute façon, c'était mieux. Les Américains, c'était mieux. Les Japonais, c'était mieux. Les Français, c'était mieux. Et qu'eux, ils n'étaient pas vraiment considérés comme une vraie culture. Et sauf que c'est tellement passionnant ce qu'ils font. Et il y a plein de trucs qui me font rêver. Il y a une tribu qui ont des perles en verre. Et chaque perle a un nom et est associée à une légende. Et quand ils construisent leur collier, en fait, ils racontent des histoires avec les perles. Et je trouve que cette manière de raconter une histoire, elle est merveilleuse.
Ouais,
et
c'est clair.
Et juste dire ça, c'est pas une vraie culture, comment on peut dire ça, quoi.
Ouais. Et du coup, est-ce que tu as discuté un peu justement de ces histoires de droits et de reconnaissance de tribus, ce que je trouve ouf, quoi. Enfin, c'est juste... Laissez-nous vivre, merci.
Oui, mais en fait, le fait d'être reconnu par l'État, ça permet d'avoir des subventions, en fait.
Okay.
Donc, il y a plein de gens qui se battent pour que leur tribu soit reconnue.
Mais des subventions à quel propos, en fait?
En fait, l'État... J'ai appris que si on avait un nom aborigène, on avait droit à une allocation. Donc, il y a beaucoup d'enfants de couples mixtes taïwanais aborigènes qui font exprès de prendre le nom aborigène pour avoir de l'argent. Et alors après, tout ce qui est un peu administratif, j'ai pas trop cherché à comprendre non plus, parce que j'ai déjà beaucoup de mal avec la version française, alors version taïwanaise, voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment... je me suis mis à la place d'un enfant et c'était vraiment... imagine-toi que je suis une petite aborigène et explique-moi ce que je dois savoir, quoi. Comment je dois réagir ou... Alors, soyons clairs, il y a un mythe qu'on se dit, c'est « Ah, est-ce que vous mangez des chiens ?» C'est le truc des Asiatiques qui mangent forcément des chiens. Et du coup, j'ai posé cette question. Et non, les aborigènes ne mangent pas de chiens. Au contraire, ils sont très, très bien... Enfin, ils font très attention à leurs chiens parce que c'est ça qui leur permettait de chasser. Par contre, ils mangent des écureuils volants qui sont très, très mignons. Et c'était un petit peu dur. Et je posais les questions de qu'est-ce que vous mangez, c'est quoi la nourriture typique, ça signifie quoi cette danse-là, pourquoi vous faites ceci, pourquoi vous faites ça, enfin les questions
les fameuses questions des enfants de 3 ans de...
C'est ça.
Pourquoi ça tourne dans ce sens-là dans l'évier ? Alors,
question en fait, j'ai 3 ans et je pose les questions chiantes des gamins de 3 ans. Pourquoi ceci, pourquoi cela ? Mais les gens sont gentils, ils veulent bien me répondre.
C'est quoi l'art ? Oui.
Ouais, j'essaye de poser des questions moins métaphoriques, moins philosophiques, mais c'était pourquoi vous avez des tenues rouges, par exemple.
Ouais, c'est vraiment aller à la découverte.
C'est ça. Et du coup, j'ai l'explication de pourquoi les amis sont habillés en rouge, c'est parce que le rouge, c'est le sang, et le sang, c'est le pouvoir, c'est la force, et c'est la tribu qui coupait les têtes.
Voilà. D'accord. Et okay. Est-ce que tu as d'autres anecdotes comme ça
Par exemple. C'est une femme atayale qui a des tatouages sur le visage. Donc, les femmes avaient des tatouages sur le visage si elles étaient bonnes couturières. Les hommes, si c'était des bons chasseurs, et les femmes, si c'était des bonnes couturières. Et dis tout de suite, il n'y a plus de femmes tatouées. Ça a été interdit par les Japonais, donc je crois qu'il reste 3 grands-mères qui ont plus de 95 ans, qui ont des tatouages. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il y a juste une dame qui, en 2008, a décidé de se refaire faire un tatouage. Mais c'est la seule personne de moins de 94 ans.
c'est vraiment ouf de voir à quel point les lois imposées par les nouveaux arrivants redéfinissent, eux, leur manière de vivre et leurs traditions, etc. C'est vraiment... moi, je trouve ça... vraiment triste en fait.
Si vous voulez à la fois être émerveillé et très très triste, je vous conseille un film qui s'appelle Sedic Ballet ou les Rainbow Warriors, qui est un film qui est basé sur une BD, elle-même basée sur une histoire vraie, d'une tribu Sedic, comme son nom l'indique, Sedic Ballet, qui a combattu les Japonais pendant... Ils ont tenu un mois, je crois, parce qu'ils en avaient marre d'être considérés comme des esclaves. Et donc, un jour, ils ont tué, je crois, 12 représentants japonais pendant une fête sportive. Et les Sedic étaient des grands guerriers. Et ils ont réussi à tenir pendant un mois. Et comme les Sedic avaient tué 12 japonais, les Japonais ont tué 1000 Sedic. Parce que, autant équilibrer... Ouais. Et le film raconte cette période. Autant dire que si vous êtes sensible, vous allez pleurer tout de suite. Hein. Moi, je ne pleure jamais devant les films. Là j'ai eu la larme.
Ouais.
Parce que surtout se dire que c'est une histoire vraie, je spoil un petit peu, mais les femmes et les vieux, les enfants, se sont suicidés pour que les guerriers puissent tenir et que ce ne soit pas un... Ils se sont dit, on préfère mourir, nous, et décider, plutôt que les Japonais décident de les prendre en otage pour que les guerriers arrêtent. Et la BD est très très bien, le film est vraiment très très bien.
Et sais de qui c'est la BD ? C'est le même nom ?
Non, alors je crois qu'il s'appelle Chiu Wu, mais normalement si tu mets Sedic Ballet, S-E-D-I-Q... Ouais. B-A-L-E, en deux mots, tu devrais tomber sur la BD qui existe en français. C'est le seul BD taïwanaise qui existe en français. Et qui, normalement, c'est facile à trouver.
Ok, je vais la trouver, certainement. Oui, c'est bon, je l'ai.
Tu l'as trouvé ?
Oui.
Et j'ai rencontré un des acteurs du film, et qui est aussi de la tribu Sédic, et qui m'a dit que pour lui, ça a été vraiment très dur, parce qu'il comprenait, enfin, il se mettait à la place de ses lointains ancêtres, enfin, pas si lointains que ça, parce que ouais. Ça a à peine 100 ans, mais il avait du mal, ça l'avait beaucoup touché de voir ce que les gens avaient vécu.
Bah oui, enfin, je pense que c'est un truc que tu portes dans ton histoire pendant longtemps, quoi. Enfin,
donc désolée si j'ai déprimé les gens sur le podcast. Mais bon.
Non, mais en fait, enfin, je pense que c'est très intéressant de parler des cultures, mais je pense que c'est aussi très intéressant et de sensibiliser au fait que, en fait, enfin, c'est comme nous ce qu'on a fait avec les colonies. Enfin, genre c'est vraiment, c'est de la merde.
C'est
donc, entendons-nous.
Faut pas recommencer.
Voilà, c'est ça. C'est en fait sensibiliser les gens à ce genre de massacre et d'histoire vraiment, vraiment horrible. Je pense que c'est très important pour que ça ne se reproduise pas.
Et je fais un petit point parce que j'ai oublié de le dire au début. Mais alors, c'est normal s'ils ressemblent un petit peu à des Maoris parce qu'en fait, ils sont cousins. Alors, je coupe le truc. C'est les Taïwanais. Enfin, les aborigènes de Taïwan qui sont partis pour devenir des Maoris, et non pas l'inverse. Et ils sont aussi devenus des Malgaches. Les premiers habitants de Madagascar sont des aborigènes de Taïwan. Donc, je refais un petit point. Donc, c'est normal s'ils ressemblent un petit peu à des Malgaches ou des aborigènes
de Taïwan. Ok, et donc les Maoris, on rappelle, c'est Nouvelle-Zélande.
C'est ça.
Ok.
Donc, tous les premiers habitants de Nouvelle-Zélande, Philippines, Madagascar, c'est des descendants des aborigènes de Taïwan.
Ok.
Donc une petite île qui est partie très très loin.
Mais c'est trop bien. Ça veut dire que est-ce que mais ouais c'est en fait c'est les cultures qui évoluent et qui se construisent ailleurs.
C'est ça.
C'est.
Et à Taïwan, donc Taïwan c'est une grosse île et une petite île qui s'appelle Orchid Island et qui a une tribu toute seule sur l'île et donc il y a par exemple cette dame.
Et ça c'est est-ce que c'est des portraits que tu as dessinés?
Oui ça c'est des dessins à moi.
Ouais, mais c'est des portraits que tu as dessinés suite à des photos que tu as prises ou
c'est des photos que j'ai prises okay. Et aussi sur du vif, ça dépendait si j'avais le temps de okay. Dessiner ou pas. Et donc, tu peux montrer sur la version.
Yes.
Alors, c'est très gentil, c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais je les appelle un peu les têtes d'abat-jour. Parce que, comme on peut voir là, les hommes portaient des énormes casques comme ça. Alors quand on les voit comme ça, on se dit...
En fait, ils ont une espèce de masque...
C'est ça, ça fait vraiment un abat-jour qui va du
et
crâne.
Juste, ils ont
les yeux. Juste les yeux. Et on se dit, waouh, ouais, c'est un truc de guerrier, c'est magnifique. Enfin, c'est parce que c'est des grands guerriers. Tu parles, c'est la seule tribu qui n'est pas du tout guerrière, qui est super pacifique et qui est hyper spirituelle. C'est-à-dire que le casque, il sert juste à se protéger des esprits méchants. C'est le seul truc.
Okay.
Ils ont des lances énormes, c'est pareil. Donc ça me faisait un peu rire de voir le côté un peu armure chevalier pour des esprits et non pas ouais. Pour tuer les copains d'à côté. Voilà.
C'est trop bien, c'est très très intéressant vraiment. Et il y a plein de gens qui disent qu'ils ont hâte de lire tes futurs ouvrages. Donc n'hésite pas à me tenir au courant quand tu auras fini ton projet.
Je viendrai avec.
Très cool. C'est parfait. Bah, en fait, bah, on arrive déjà à la fin. Ouh là là, ça fait déjà une heure qu'on discute toutes les trois. Merci à toutes les deux d'être venues partager vos passions respectives. C'était vraiment hyper intéressant. Je rappelle que je mettrai toutes les références liées à ce dont on a parlé dans l'article du C'est ça qu'on aime numéro 15. Donc dès demain, donc nous serons vendredi 12 mai. Et puis, le podcast sera disponible aussi dans l'après-midi. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne s'y connaissent pas en podcast et qui ont encore du mal à comprendre ce que je fais comme travail, on a fait une vidéo qu'on a sortie aujourd'hui avec Fab pour expliquer comment on s'abonne à un podcast et comment on en découvre. Alors déjà, vous en avez un sous la main, et vous avez ceux de Mademoiselle aussi. Donc déjà, ça vous fera un peu de temps pour écouter. Donc je vais vous mettre le lien sur le chat. Et puis je vous rappelle encore une fois que comme Caroline et Elena, vous pouvez m'envoyer un mail à louise@mademoiselle.com.
On s'est pas fait manger, c'était sympa en fait.
Oui, ouais, c'est vrai, on est toujours là.
Après, moi, après je vous appelle et je vous dis hey, salut, trop bien, tu veux parler de ça, trop bien, viens on en parle. Et vous venez après, c'est ça qu'on aime et c'est formidable. Et il n'y a pas besoin d'être forcément à Paris, vous pouvez aussi venir par Skype. On a fait ça avec Juliette, qui était venue pour parler de zéro déchet, parce que c'était un mouvement auquel elle appartenait, et elle essaye vraiment d'arriver au zéro déchet, mais c'est un long combat, ça, c'est vraiment un combat. Et du coup, bah, on était sur Skype et ça s'est très bien passé. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être à Paris, vous avez juste besoin d'une bonne connexion Internet pour qu'on vous entende, c'est tout. Donc ça va. Et puis je finis en disant que les prochains lives de Mademoiselle, ça sera le 16, donc mardi 16 mars. 16 mai, nous sommes en mai. Mardi 16 mai, c'est l'émission. Sur les relations à distance avec, si je ne me trompe pas, Anne-Sophie Girard. Peut-être que je me trompe, donc on verra. Et c'est ça qu'on aime le 18, donc jeudi prochain, et le 19 mai. Non, alors attendez, c'est pas le 18 du coup, c'est le 17. Je suis perdue. Ah non, c'est le 18. Oh, ok, je la refais. 1, 2, 3. C'est ça qu'on aime, ça sera donc le jeudi 18. Et la grosse teuf, c'est donc le vendredi 19 mai. Ça a du sens. La grosse teuf qui sera à la Bellevilloise à Paris. La prévente, c'est 12 euros. Et petite info, le thème, c'est héros de notre enfance. Et avec Lucie et Dorothée, on se déguise en super nana et on va mixer. C'est nous qu'on fera la musique en bas de la Bellevilloise. Donc si vous voulez venir danser, n'hésitez pas. On sera très heureuse de vous faire danser. Et sur ce, merci encore les filles d'être venues ce soir.
Merci pour l'accueil. C'était
vraiment très chouette. Merci beaucoup. Et puis bah, merci à vous de nous avoir suivis sur l'Internet mondial. Et on se quitte avec un petit morceau sympathique de Charlie Cunningham. Ciao.
Salut.
While you were young, let your poor heart break. It's a beautiful morning to throw away. While you were young, let your judgment sway. There are things you'll get wrong, everyone does the same. The trouble you make and all your mistakes, if it makes your life hard, you change. Let your hours go to waste, let your night turn to day. It's too late to go home, so just stay. I hope we'll all be old someday. Time is gonna come when the nights go long, and you won't know what's missing, but you'll know that it's gone. So while you were young, let your poor heart break. It's a beautiful morning, don't throw it away. The trouble you made and all your mistakes, if it makes your life hard, you change. Let your hours go to waste, let your night turn to day. It's too late to go home, so just stay. I hope we'll all be old someday. Trouble you made and all your mistakes, if it makes your life hard, you change. Let your hours go to waste, let your night turn to day. It's too late to go home, so just stay. I hope we'll all be old someday.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.